Chapitre 23. J'arrivais à la réunion à l'heure, me semble-t-il. Le courriel disait 12h30, mais à mon arrivée tout le monde était déjà assis, et silencieux, et tous les regards étaient rivés sur moi. Après l'accident, le blackout médiatique fut total. Le monde entier suivait nos progrès. Nous étions son seul espoir de survie. La dernière chose dont nous avions besoin était d'ébruiter la mort de notre spécialiste scientifique et de sa remplaçante. On peut dire ce qu'on veut des Russes, mais ils savent garder un secret. Baïkonour tout entier était confiné. La salle de réunion, une grande caravane fournie par les Russes, offrait une vue superbe sur la rampe de lancement. Je visais le Soyouz par la fenêtre. De la vieille technologie, certes, mais de loin le système de lancement le plus fiable jamais conçu. Strat et moi n'avions pas parlé depuis le soir de l'explosion. Elle avait dû constituer et diriger une commission d'enquête ad hoc, travaillée dans l'urgence. Si le désastre avait été causé par une procédure ou un équipement qui serait utilisé lors de la mission, il fallait l'identifier. Je voulais participer aux investigations, mais elle avait refusé. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe de régler les problèmes mineurs que l'équipage de l'ESA continuait de pointer du doigt. Strat me regardait droit dans les yeux. Dimitri cherchait quelque chose dans ses documents. Sans doute pensait-il pouvoir améliorer encore son moteur tournant. Loken, la Norvégienne passionnée qui avait conçu la centrifugeuse, pianotait nerveusement sur la table. La docteur Lamaille portait son habituelle veste de laborantine. Son équipe avait mis au point un robot médical parfaitement autonome, ce qui lui rapporterait peut-être un jour le prix Nobel. À condition que la Terre vive assez longtemps pour cela. Même Steve Hatch, le Canadien fou qui avait conçu les scarabées, était présent. Au contraire des autres, il semblait à son aise, jouait avec une calculatrice. Il n'avait aucun document devant lui, simplement sa machine. Était également présent le commandant Yao et l'ingénieur Ilyukina. Le premier semblait aussi sévère qu'à l'accoutumée, la seconde n'avait pas de verre d'alcool à la main. « Je suis en retard ?» demandai-je.
« Non, vous êtes juste à l'heure, » répondit Strat. « Asseyez-vous, je vous prie. »
Il n'y avait qu'une chaise vide.
« Nous pensons savoir ce qui s'est passé au centre de recherche, » poursuivit-elle. « Le bâtiment a été pulvérisé, mais les données sont toutes stockées dans le serveur de Baïkonour. Fort heureusement, celui-ci se trouve dans le centre de contrôle de mission. Et Dubois, vous savez comment il était, consignait méticuleusement tout ce qu'il faisait. »
Elle prit un document sur la table.
D'après son emploi du temps numérisé, il comptait travailler sur un risque de panne extrêmement improbable dans un générateur fonctionnant aux astrophages.
« C'est moi qui aurais dû effectuer ce test, »
intervint Ilyukina en secouant la tête.
« La maintenance du vaisseau, c'est mon boulot. Dubois aurait dû me demander. »
« Que testait-il exactement ? » manquis-je.
« Il y a un mois de ça environ, la JAXA a découvert un risque de panne de générateur. Celui-ci utilise les astrophages pour produire de la chaleur, laquelle fait tourner une petite turbine avec un matériau à changement de phase. C'est une technologie ancienne et fiable. Le dispositif nécessite très peu d'astrophages, une vingtaine de cellules à la fois.
« Il n'est donc pas dangereux, » remarquai-je.
« En effet. » Toutefois, si le modérateur de la pompe tombe en panne et qu'il y ait une densité inhabituelle d'astrophages dans le tuyau d'alimentation, un nanogramme de combustible pourrait se retrouver dans la chambre de réaction.
Et ?
Et rien, parce que le générateur contrôle également la quantité d'hier projetée sur les astrophages. Si la température de la chambre dépasse un certain seuil, l'émission d'hier cesse pour laisser le temps aux cellules de se calmer. Le système est sûr et bien pensé. Le risque existe néanmoins, extrêmement faible, d'un court-circuit qui provoquerait une émission maximale d'hier en dépit du thermostat de sécurité. Dubois voulait travailler sur ce scénario pour le moins improbable.
Que s'est-il passé ? Loken s'interrompit et sa lèvre tremblota un peu. Elle respira un bon coup et reprit.
Il s'est procuré une réplique du générateur, un des modèles que nous utilisons pour effectuer des essais au sol. Il a modifié l'alimentation de la pompe et l'émetteur d'hier pour simuler cette fameuse panne. Il voulait activer un nanogramme entier d'astrophage pour voir quel genre de dégâts il pouvait causer au générateur.
« Attendez !» l'interrompis-je. « Un nanogramme, ce n'est pas assez pour souffler un bâtiment entier. Dans le pire des cas, ça pourrait faire fondre un peu de métal. »«
Oui, »
acquiesça Loken.
Elle inspira profondément, puis expira longuement.
« Vous savez comment nous stockons de petites quantités d'astrophage, n'est-ce pas ?»«
Dans une boîte en plastique, suspendue dans du propylène glycol. »
Elle hocha la tête.
Lorsque Dubois a demandé un nanogramme à l'intendant du centre de recherche, on lui a donné un milligramme par erreur. Vu que les boîtes sont identiques et que la quantité était trop faible, Shapiro et lui n'ont rien vu.
« Mon Dieu !» commentai-je en me frottant les yeux. « Cela représente un million de fois plus d'énergie que ce qu'il espérait. L'immeuble et tous les gens qui y travaillaient ont été vaporisés. Grand Dieu !»
« La vérité est simple et brutale, » affirma Strat en rangeant ses documents. Nous n'avons ni les procédures ni l'expérience pour manipuler les astrophages en toute sécurité. Si vous demandiez un pétard et qu'on vous apporte une remorque pleine de plastique, vous vous en rendriez compte. Mais la différence entre un nanogramme et un milligramme, un humain ne peut pas voir la différence.
Le silence s'installa et se prolongea. Elle avait raison. Bien trop négligemment, nous avions manipulé de véritables bombes atomiques. C'était de la folie, bien sûr, mais nous n'avions pas eu le choix.
« Nous allons repousser le lancement, alors ?» demandai-je. « Non. Nous en avons discuté et nous sommes tous d'accord. Impossible de retarder le départ du Dernière Chance. Il est assemblé, testé, le plein a été fait, il est prêt à partir. »«
C'est à cause de l'orbite, » expliqua Dimitri. Son inclinaison est de 51,6 degrés pour permettre un accès facile depuis Cap Canaveral et Baïkonour. Une orbite basse se dégrade rapidement toutefois. Si le vaisseau ne part pas dans les 3 semaines, nous devrons lancer une mission pour corriger son altitude.
« Le Dernière Chance partira comme prévu, » confirma Strat. « Dans 5 jours. L'équipage aura 2 jours pour tout vérifier à bord, ce qui signifie que le Soyouz décollera dans 3 jours. »
« D'accord, mais nous n'avons plus d'experts scientifiques, » remarquai-je. « Je suis certain qu'il y a des centaines de volontaires à travers le monde. J'imagine qu'il est possible de briefer la personne sélectionnée sur l'essentiel, mais
la décision a été prise, » m'interrompit Strat. « Elle s'est imposée d'elle-même, à dire vrai. Nous n'avons absolument pas le temps d'enseigner à un nouveau spécialiste tout ce qu'il a besoin de savoir. » Il y a bien trop d'informations à assimiler, de résultats de recherche à connaître. Même le plus brillant scientifique n'y arriverait pas en seulement 3 jours. Sans compter qu'une personne sur 7000 seulement possède la combinaison de gènes qui rend résistant au coma.
Je commençais seulement à comprendre.
« Je crois savoir où cette conversation nous mène, » dis-je.
« Comme vous le savez sûrement, votre test s'est révélé positif. » Une personne sur 7000, et vous en faites partie.
Nous sommes coéquipiers maintenant, s'enthousiasma Ilyukina.
Attendez, attendez. Non, 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 c'est de la folie. D'accord, je m'y connais en astrophage, mais je n'y connais rien de rien en vol spatial.
Nous vous formerons sur le tas, me rassura Yao avec calme et assurance. Nous nous chargerons des tâches les plus difficiles. Vous vous contenterez de la science.
« Il y a forcément quelqu'un d'autre !»
gémis-je en me tournant vers Strat.
« Pourquoi pas le remplaçant de Yao, ou celui d'Ilyukina ?»« Ils ne sont pas biologistes. Ce sont des gens extrêmement compétents qui maîtrisent le fonctionnement du Dernière Chance, qui en connaissent tous les détails, mais on ne peut pas former quelqu'un en biologie cellulaire dans le peu de temps qu'il nous reste. Cela reviendrait à demander au meilleur ingénieur en structure de pratiquer une opération du cerveau. » Ce n'est tout simplement pas le même genre de partition.
Qu'en est-il des autres candidats, de ceux qui n'ont pas été sélectionnés?
Aucun d'entre eux n'est aussi qualifié que vous. Franchement, nous avons beaucoup de chance, une chance insensée, que vous soyez résistant au coma. Vous croyez que je vous ai gardé à portée de main parce que j'avais besoin d'un professeur de collège dans l'équipe?
Ah!
Vous savez comment le vaisseau fonctionne?
Continua-t-elle.
Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les astrophages. Vous savez comment on se sert d'une combinaison d'AEV et des outils que nous avons développés. J'ai fait en sorte que vous assistiez à toutes nos réunions stratégiques et scientifiques. Vous avez les bons gènes, ainsi que toutes les compétences requises. De ça aussi, je me suis assuré. Dieu sait que je ne voulais pas en arriver là. Mais nous n'avons pas le choix. Depuis le début, vous êtes notre troisième spécialiste scientifique. Non, 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 c'est impossible, il y a forcément quelqu'un d'autre. Un scientifique plus talentueux, quelqu'un qui aurait envie d'y aller. Vous en avez sûrement une liste. Qui est le candidat qui vient juste après moi ?
Andrea Caceres,
répondit Strat en prenant une feuille devant elle.
Elle travaille dans une distillerie au Paraguay. Elle possède les bons gènes, ainsi qu'une licence de chimie avec une option en biologie cellulaire. Et elle s'est portée volontaire au tout début de notre mission.
Génial ! Appelons-la !
Vous avez profité de plusieurs années de formation. Vous êtes familier du vaisseau et de tous les aspects de la mission. Vous faites partie des experts mondiaux en matière d'astrophage. Nous n'aurions que 2 jours pour mettre Caceres au parfum. Vous savez comment je fonctionne, Dr. Grace, mieux que quiconque. Je veux donner à cette mission toutes les chances de réussir, et vous faites partie de ces chances. Mais je ne veux pas mourir,
avouai-je en baissant les yeux.
Personne ne veut mourir.
C'est à vous de prendre la décision, intervint Yao. Je ne veux forcer personne à nous rejoindre. Si vous choisissez de ne pas nous accompagner, nous ferons venir Madame Caceres et nous ferons notre possible pour la former. Je vous demande cependant d'accepter. Des milliards de vies dépendent de nous. Celle des membres d'équipage est bien peu de chose comparée à cette tragédie. Je me pris la tête à 2 mains. Mes yeux s'emplissaient de larmes.
Pourquoi moi ?
Je peux réfléchir un peu ?
Oui,
acquiesça Strat, mais pas longtemps. Si vous refusez, nous devrons nous dépêcher de faire venir Caceres. Je veux votre réponse à 17 heures au plus tard.
Je me levai et quittai la salle en traînant les pieds. Sans même dire au revoir, me semble-t-il. Voir ses collègues les plus proches se réunir en secret pour décider de votre mort était une chose terrible, déprimante. Je regardai ma montre, 12h38. J'avais 4h30 pour réfléchir. Les moteurs tournants du Dernière Chance sont incroyablement surdimensionnés lorsqu'on considère la masse actuelle du navire. Lorsque nous avons quitté la Terre, le vaisseau pesait 2,1 millions de kilogrammes, dont une grande majorité de carburant. Désormais, le Dernière Chance ne pèse plus que 120 000 kilogrammes, environ 1/20 de son poids initial. Grâce à la masse relativement réduite du navire, les modestes scarabées nous donnent collectivement une poussée de 1,5 G. Sauf que le vaisseau n'a pas été conçu pour subir des poussées à 45 degrés sur des poignées choisies arbitrairement sur la coque. Si nous utilisons les scarabées au maximum de leur capacité, ils arracheront les poignées et disparaîtront dans la lumière de Tossetti. Rocky a tenu compte de cette contrainte lorsqu'il a annulé notre rotation. À présent, je peux effectuer une AEV en apesanteur comme il se doit, comme prévu dans le grand dessein de Dieu. J'ai imprimé une maquette 3D de la structure interne du Dernière Chance que j'ai montrée à Rocky. Moins d'une heure plus tard, il avait non seulement trouvé une solution, mais aussi fabriqué les poutrelles en xénonite nécessaires pour la mettre en œuvre. J'effectue donc une nouvelle AEV. Je renforce les scarabées avec ses étançons. Pour une fois, tout se passe comme prévu. Rocky me dit que le vaisseau est désormais capable d'encaisser l'accélération des scarabées, et je le crois sur parole, car il sait vraiment de quoi il parle. J'entre quelques calculs dans un tableau Excel très compliqué, qui comporte sans doute quelques erreurs. Cela me prend environ 6 heures, et j'aboutis enfin à la réponse dont j'ai besoin. Nous devrions au moins arriver en vue du spot A. Nous corrigerons notre vecteur à ce moment-là.
Prêt ?
Demandai-je depuis le fauteuil du pilote.
Prêt ?
Répond Rocky dans son bulbe, les 3 télécommandes dans les mains.
Parfait.
John et Paul à 4,5%.
John et Paul, 4,5%, confirmé.
Rocky aurait pu me fabriquer des commandes, mais c'est mieux comme cela. De fait, je n'ai pas le droit de lâcher le moniteur des yeux, puisqu'il est nécessaire de surveiller notre vecteur. Ainsi, les rôles sont partagés. Sans compter que Rocky est ingénieur et qu'il est mieux placé que moi pour faire fonctionner nos moteurs de fortune. John et Paul à zéro. Ringo à 1,1%.
John et Paul zéro. Ringo 1,1%.
Après plusieurs corrections d'angle, nous mettons le vaisseau sur la bonne trajectoire. Notre vecteur est bon, du moins je l'espère. Quand il faut y aller, on met les gaz.
John, Paul et Ringo, 100%.
Je suis plaqué sur mon fauteuil comme le vaisseau bondit et que l'accélération atteint très vite 1,5G. Je croise les doigts pour que nous nous dirigions vers le spot A et que nous volions en ligne droite. On maintient la poussée pendant 3 heures.
3 heures. Moi, surveiller moteur. Vous, vous reposez.
Merci, mais je n'ai pas le temps de me reposer. Je compte profiter de la pesanteur tant qu'il y en a.
Moi, rester ici. Vous décrire vos expériences.
Ça marche. Je compte sur un nouveau transfert de 11 jours. Nous avons besoin de 130 kg de carburant pour cela, soit un quart des astrophages embarqués par les scarabées. Si on compte George, qui est posé sur la table du laboratoire, le réservoir plein. Nous devrions en avoir assez pour pallier mes erreurs de calcul éventuelles. Nous atteindrons notre vitesse de croisière dans 3 heures, et puis nous filerons en ligne droite pendant 11 jours. Je n'ai pas envie de me casser la tête à accélérer ou ralentir la centrifugeuse en route. On pourrait le faire. Rocky l'a démontré lorsqu'il a annulé notre rotation. Cependant, ce serait très délicat, et les risques de perte de contrôle seraient grands. Pis, il se pourrait même que les câbles s'en mêlent. Je dispose de 3 heures à 1,5G. Après cela, nous serons en apesanteur pendant un bon moment. Il est temps d'aller au labo. Je descends l'échelle. Mon bras me fait souffrir, quoique un peu moins. J'ai changé mon pansement tous les jours. Enfin, c'est la merveilleuse machine de la docteure Lamaille qui s'en est chargée. Il y a bien du tissu cicatriciel un peu partout. Je vais finir ma vie avec une épaule et un bras particulièrement laids. Je pense que les couches profondes du derme ont survécu. Autrement, je serais sans doute mort de la gangrène. Ou bien la machine de Lamaille aurait profité de mon sommeil pour m'amputer. Cela fait un bout de temps que je n'ai pas évolué dans 1,5G. Mes jambes me le rappellent, mais je commence à m'habituer à ce type de désagrément. Je me dirige vers la porte du laboratoire, où mes expériences sur les taux-mib sont en cours. Tout est fermement fixé à la table, au cas où il se passerait quelque chose d'imprévu. Bien sûr, ce n'est pas comme si je devais économiser mes taux-mib. J'en ai même un sacré paquet, là où auraient dû se trouver mes réserves de carburant. Je vérifie d'abord mon expérience vénusienne. Le mécanisme de refroidissement vrombit doucement, maintenant une température égale à celle de l'atmosphère supérieure de Vénus. À l'origine, je comptais laisser les taux-mib incubés là pendant 1 heure seulement, et puis les lumières se sont éteintes, et d'autres priorités se sont imposées à nous. Cela fait 4 jours maintenant. Les taux-mib ont eu le temps de faire leur boulot. Je déglutis. C'est un moment tellement important. La petite lame de verre est recouverte d'une fine couche d'astrophage. Si les taux-mib sont en vie et si elles se repaissent d'astrophage, la lumière passera à travers le verre. Plus je verrai de lumière, moins il y aura d'astrophages vivants sur la lame. Je me prépare. Je prends une profonde inspiration et je regarde dans la boîte. Noir de jet. Ma respiration se fait irrégulière. Je sors une lampe torche de ma poche et l'allume derrière l'expérience. La lumière ne passe pas. Mon cœur se recroqueville. Je passe à l'expérience Monde 3. Je jette un coup d'œil à la lame et constate qu'elle est aussi noire que la première. Les taux-mib ne peuvent pas survivre dans un environnement tel que celui de Vénus ou de Monde 3. En tout cas, elles ne peuvent pas manger. Le gouffre dans mon estomac devient de plus en plus béant et profond. On était si proche du but.
La réponse est là, l'étomibe, le prédateur de la chose qui détruit nos planètes respectives. Un prédateur vigoureux, qui survit et se développe dans mes réservoirs de carburant. Mais pas dans l'atmosphère de Vénus, ni celle de Monde 3.
Pourquoi ?
Résultat, question.
C'est un échec, dans les deux cas. Les tomibes sont mortes. J'entends Rocky donner un coup dans son tunnel.
Colère.
Tout ce travail pour rien. Que dalle. J'abats mon poing sur la table. J'ai tellement donné pour ça. J'ai fourni tant d'efforts.
La carapace de Rocky tombe lourdement dans son bulbe. Signe de grande dépression.
Nous sombrons tous les deux dans le silence pendant quelque temps. Rocky dans son bulbe, moi le visage enfoui dans les mains. Et puis j'entends enfin un grattement.
Rocky relève doucement sa carapace.
Travaillez davantage. Abandon interdit. Travaillez très dur encore. Nous, courage.
Oui, sans doute. Je ne suis pas l'homme de la situation. On m'a désigné à la dernière seconde parce que les gens compétents étaient morts dans une explosion. Je suis là, cependant. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je suis là. J'ai dû me porter volontaire en sachant qu'il s'agirait d'une mission suicide. Ce n'en est plus forcément une, mais cela ne change rien.
La caravane de Strat était presque deux fois plus grosse que la mienne. Le privilège du rang, j'imagine. Il faut dire qu'elle avait besoin de place. Elle était assise à une grande table couverte de documents. Des textes imprimés dans quatre alphabets différents et au moins six langues qu'elle semblait maîtriser. Un soldat russe se tenait dans un coin de la pièce. Pas tout à fait au garde-à-vous, mais presque. Il y avait une chaise à côté de lui, mais il avait décidé de s'en passer.
« Dr. Grace, »
commença Strat sans me regarder.
« Je vous présente le soldat Mechnikov, »
ajouta-t-elle en désignant l'homme.
« Nous savons tous les deux que l'explosion était accidentelle, mais les Russes ne veulent prendre aucun risque. »
« Il est donc là pour empêcher un terroriste imaginaire de vous tuer, »
conclus-je en le regardant.
« Quelque chose comme ça. »
Elle leva enfin la tête.
« Bien, il est 17h. Avez-vous pris une décision ? Serez-vous le spécialiste scientifique du Dernière Chance ?»
Je m'assis en face d'elle, incapable de croiser son regard.
« Non. » « Je vois, »
dit-elle en fronçant les sourcils.
« C'est à cause, vous savez, les enfants. Je devrais rester pour les enfants. »
Je m'agitais sur ma chaise.
« Même si le Dernière Chance réussit sa mission, nous sommes partis pour presque 30 ans de malheur. » « Bien sûr. Je suis enseignant, après tout. Je suis là pour transmettre. Nous avons besoin d'élever une génération forte de survivants. À l'heure qu'il est, nous sommes trop mous. Vous, moi, l'Occident. Nous avons grandi dans le confort et une stabilité sans précédent. Les enfants d'aujourd'hui devront faire fonctionner le monde de demain. Et ils vont hériter d'un chaos. Je serai bien plus utile en les préparant pour le monde qui vient. » Je devrais rester sur Terre où on a besoin de moi. Sur Terre, où on a besoin de vous.
Oui.
Et non pas à bord du Dernière Chance, où vous pourriez régler une fois pour toutes notre problème parce que vous avez toutes les compétences requises.
Ça ne marche pas comme ça, protestai-je. Enfin si, un peu. Écoutez, je ne suis pas fait pour le travail en équipe. Et puis je ne suis pas un explorateur intrépide.
« Je sais bien. »
Elle serra le poing, regarda ailleurs, puis me refit face, fixant sur moi un regard de feu que je ne lui connaissais pas.
« Dr. Grace, vous êtes un lâche, une merde. »
Je grimaçais.
« Si vous vous souciez réellement des enfants, vous sauteriez dans le vaisseau sans vous poser de questions. Vous pourriez sauver des milliards d'enfants de l'apocalypse au lieu d'en préparer quelques centaines à l'affronter. »
« Ce n'est pas du tout ça !»
me défendis-je en secouant la tête.
« Vous croyez que je ne vous connais pas, Dr. Grace ? »
cria-t-elle.
« Vous avez toujours été un lâche. Vous avez fait une croix sur une carrière scientifique prometteuse parce que des gens n'ont pas aimé un article que vous aviez écrit. Vous avez préféré devenir l'idole d'enfants qui vous trouvent cool.
Vous êtes seul parce que vous avez peur d'avoir le cœur brisé. Vous fuyez les risques comme la peste.
D'accord, c'est vrai, avouai-je en me levant. J'ai peur. Je ne veux pas mourir. J'ai travaillé très dur sur ce projet et je mérite de vivre. Je ne partirai pas, un point c'est tout. Appelez la prochaine personne sur la liste, la chimiste paraguayenne. Elle sera heureuse de partir.
Je me fiche de savoir qui veut partir,
hurla-t-elle en frappant du poing sur la table.
Je veux la personne la plus qualifiée. Dr. Grace, je suis désolé, mais vous allez bel et bien partir. Je sais que vous avez peur. Je sais que vous ne voulez pas mourir, mais vous allez partir quand même.
Vous êtes taré! Je me casse. Je tourne les talons.
Mechnikov,
appela-t-elle. Aussitôt, le soldat se dressa entre la porte et moi.
C'est une plaisanterie, demandai-je en me tournant vers Strat.
Tout aurait été tellement plus facile si vous aviez simplement dit oui.
C'est quoi votre plan? Me menacer d'une arme pendant les 4 années que durera le voyage? L'interrogeai-je en désignant le soldat du pouce.
Vous serez dans le coma pendant toute la durée du voyage.
J'essayai de contourner l'homme, mais il m'en empêcha avec des bras d'acier. Il ne fit preuve d'aucune brutalité. Il était tout simplement infiniment plus costaud que moi. Et puis, il me prit par les épaules et me retourna vers Strat.
« C'est complètement fou » protestai-je.
« Yao ne cautionnera pas vos méthodes. Il m'a bien fait comprendre que la décision m'appartenait. » « Oui, je n'avais pas prévu ça, mais Yao a un sens de l'honneur très prononcé. »
Elle attrapa une liste écrite en néerlandais.
« Vous passerez les prochains jours en cellule, où vous serez dans l'incapacité de communiquer avec l'extérieur. Juste avant le décollage, nous vous injecterons un puissant sédatif qui vous fera perdre connaissance avant de vous installer dans le Soyouz.
Vous croyez que Yao ne se doutera de rien ?»
J'expliquerai au commandant Yao et à la spécialiste Ilyukina que vous avez choisi d'être inconscient de crainte de paniquer au moment du décollage, du fait de votre manque d'entraînement. Une fois à bord, le commandant et la spécialiste vous installeront dans votre lit médicalisé et vous mettront dans le coma. Et puis ils se chargeront des ultimes vérifications. Vous vous réveillerez dans le système de Tosetti.
Les graines de la panique germèrent aussitôt. Son plan, quoique complètement fou, pourrait bien fonctionner.
Non, vous n'avez pas le droit, je refuse. Vous êtes complètement cinglé.
Croyez-le ou non, Dr. Grace, dit-elle en se frottant les yeux, mais je vous aime bien. Je ne vous respecte pas énormément, mais je pense que vous êtes plutôt un type bien.
Il est facile de juger quand on n'est pas condamné à mort.
Et vous me condamnez à mort.
Je pleurai à chaudes larmes. « Je ne veux pas mourir. Ne m'envoyez pas là-bas pour mourir, s'il vous plaît. »« Cela ne me plaît pas plus qu'à vous, Dr. Grace, » affirma-t-elle l'air peiné. « Si cela peut vous consoler, vous serez érigé en héros. Si la Terre survit à cette épreuve, il y aura des statues de vous partout. »«
Je ne le ferai pas, » m'emportai-je, furieux. « Je saboterai la mission. Vous voulez me tuer ? Très bien. » Je tuerai votre mission. Je saborderai le vaisseau.
Vous n'en ferez rien, dit-elle en secouant la tête. Vous bluffez. Comme je l'ai déjà dit, fondamentalement, vous êtes un type bien. Lorsque vous vous réveillerez, vous serez en colère, évidemment. Yao et Ilyukina aussi, probablement. Mais à la fin, vous ferez tous les trois votre travail, parce qu'il en ira de l'avenir de l'humanité. Je suis sûr à 99% que vous ferez le bon choix.
Essayez pour voir. Allez-y, chiche.
Je ne peux pas me contenter de ces 99%, évidemment.
Elle regarda une nouvelle fois son document.
J'ai toujours cru que la CIA américaine disposait des drogues les plus efficaces pour faire parler les gens. Eh bien non. La DGS française est encore plus forte en la matière. Elle a développé une drogue qui provoque une amnésie rétrograde de longue durée. Non pas quelques heures ni quelques jours, mais plusieurs semaines. Elle l'a utilisée dans des opérations antiterroristes. Pratique pour faire oublier un suspect qu'on l'a interrogé.
Je plongeai dans le sien un regard horrifié. J'avais mal à la gorge d'avoir crié.
Votre lit médicalisé vous en injectera une bonne dose avant de vous réveiller. Vos coéquipiers et vous attribuerez l'amnésie au coma. Yao et Ilyukina vous expliqueront la mission et vous vous mettrez immédiatement au travail. Les Français m'ont assuré que leur drogue n'effaçait pas les compétences acquises, le langage, ce genre de choses. Le temps que votre mémoire revienne, vous aurez peut-être déjà envoyé les scarabées. Dans tous les cas, je pense que vous vous serez trop investi dans le projet pour abandonner. »
Elle adressa un signe de la tête à Mechnikov qui me poussa gentiment dehors.
« Vous n'avez pas le droit !»
criai-je en me tordant le cou pour regarder par-dessus mon épaule.
« Pensez aux enfants !»
répondit Strat dans l'encadrement de la porte.
« À tous les enfants que vous sauverez !»« Pensez à eux !»